Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique Traditionnelle, nous avons un invité exceptionnel puisque vous la connaissez tous, vous connaissez sa voix. Il s'agit de Marie-Odile Lacaze. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour Mathilde, bonjour Armand,
bonjour
Zaïd.
Bonjour.
Alors Zaïd, il dit bonjour en pouchtoun d'habitude.
Sahar Mubakher.
Voilà, je ne me suis pas encore...
Sahar Mubakher.
Donc aujourd'hui, Marie-Odile, ça vous fait un peu bizarre puisque c'est vous qui êtes interviewée. Et donc, je vais vous demander de commencer par une petite chanson en occitan.
Ah, une petite, parce que je suis effectivement assez déconcertée par le fait que je me retrouve de l'autre côté du micro. Donc je le répète pour vous, les auditrices et les auditeurs, c'est Mathilde qui anime cette émission. Et je me retrouve comme une invitée, et je n'ai pas l'habitude, donc vous allez le sentir sûrement.
Et je tiens à préciser qu'elle ne vous l'a peut-être pas dit au cours des émissions que vous écoutez depuis plusieurs années, mais Marie-Odile est une grande chanteuse et elle connaît extrêmement bien l'occitan du Lot, du Ségala, précisément, c'est
ça ? Oui, du Ségala, presque Auvergne, oui.
Voilà, presque Auvergne, et donc elle est bilingue puisqu'elle anime également les émissions...
Lingonostre.
Et c'est pour ça que je me suis dit, mais j'ai quand même une invitée exceptionnelle ici, à Figeac, juste à côté, et qui connaît beaucoup de chansons. Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter là en premier ?
Donc, Mathilde, on va commencer au début et on va commencer par l'enfance. Et sûrement que j'ai été mise en contact avec l'occitan par les animaux, puisque je me plais à dire que à la ferme, tous les animaux parlaient occitan, le chien, le coq, le chat, l'ougal, l'orite, l'oucor, tout le monde parlait occitan et mes parents parlaient français. Donc c'est assez curieux que je sois bilingue et je m'en suis aperçue après 40 ans. C'est après 40 ans que je me suis dit mais je suis bilingue puisque quelqu'un qui est bilingue, donc je fais une petite parenthèse là, mais quelqu'un qui est bilingue c'est quelqu'un qui parle l'occitan depuis qu'il est né. C'est pas parce qu'il l'a appris à 5 ans, c'est pas parce qu'il a appris une autre langue à l'école, c'est parce que au berceau, il avait les deux langues. Alors celui-là, il est bilingue et son centre de Broca, celui qui met les langues sur la gauche de la du visage, c'est-à-dire sur la tempe, est un double CD d'avance, voilà. Ah, donc je n'en dirai pas plus, sauf si d'autres veulent des renseignements sur les langues. C'est très important pour le développement des langues chez les enfants. Et donc, puisque vous me demandez une chanson en occitan...
S'il vous plaît.
Vous la reconnaîtrez, ceux qui m'écoutent, c'est... Ari, ari, kobolu, konorinkere, konorinkere. Ari, ari, kobolu, konorinkere, debilnu. Ha, ha! Ha, hari hari kobolu, konorinkere, konorinkere, hari hari kobolu, konorinkere del binu. Plouf! Alors, cette chanson dit, allez, 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 mon petit cheval, que nous irons chercher, que nous irons chercher, que nous irons chercher un petit vin et plouf! Alors, à ce moment-là, on fait sauter l'enfant sur les genoux en lui tenant les mains. C'est ce qu'on a dû me faire. Et l'enfant rebondit. Et à la fin de la chanson, on écarte et il tombe entre les jambes, tenu par les mains. Et ça lui fait une petite émotion que vous avez quand il y a des dodanes ou des trous d'air dans les avions. Mais quand on est petit, on se régale de ça. Et ça marche encore. Donc je vous la refais parce que faites-la à vos arrière-petits-enfants, à vos petits-enfants et à vos enfants. Ils sont
et
ravis.
À mes nièces.
Et aux nièces.
Oui.
Hari, hari, kobolu, konorinkere, konorinkere. Hari, hari, kobolu, konorinkere, delbinu. Prout, prout, prout. Le petit prout a son succès aussi.
Avec les grands rires, j'imagine les enfants en train de rigoler là sur les genoux de ceux qui font ces chansons et qui agitent les enfants. Alors justement, moi j'ai une question parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit, c'est que vous êtes bilingue occitan parce qu'effectivement une langue maternelle, on parle de langue maternelle, c'est celle qu'on apprend au berceau, celle qu'on apprend sans s'en rendre compte, j'allais dire. Vous avez appris l'occitan et comment ça se fait que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez bilingue avant 40 ans? Quel a été le rapport à cette langue, justement, dans votre culture, dans vos chants et par la suite découvrir que c'était un plus.
Donc, à la ferme où nous étions, les voisins qui venaient parler occitan, les mamies, les papis du coin. D'ailleurs, ils se courroussaient, on va dire, chez un grenichab, hein. Alors, je n'ai pas de mots pour dire ça, mais ça veut dire que quand ils voulaient se dire des choses un petit peu vertes et crues, c'était un occitan. Et tout d'un coup, il y avait ce changement de langue, c'est-à-dire qu'il y avait une version officielle des choses. Alors, pour mes parents, c'était différent, puisque ils se tenaient à nous parler un bon français et à nous écrire un bon français pour que nous soyons bons à l'école. Ça allait de soi dans les années, pour les enfants qui allaient à l'école dans les années 60, comme moi. Et ma grand-mère était de ce cru-là, c'est-à-dire qu'elle aussi s'évertuait à parler un bon français, elle qui avait dû revenir de Paris par la mort de son mari pendant la guerre de 14. Et donc, elle écrivait sans aucune faute, tous les mots bien formés. Et donc, il y avait une pincée de, j'allais dire, d'orgueil ou de fierté, plutôt de fierté, à parler français. Et donc, moi, je devais sûrement capter l'occitan chez les voisins et aussi... lorsque leur langage entre eux, lorsqu'ils revenaient entre eux, lorsque le foyer revenait entre la grand-mère, la grand-tante, que les oncles et tantes venaient, eh bien, pour se parler, pour un entre-soi, on se parlait occitan.
Alors, est-ce que ça voudrait dire que jusqu'à vos 40 ans, c'est-à-dire les années 1990, l'occitan n'était pas vraiment considéré comme une langue à part entière pour vous et votre entourage? Parce qu'on a beaucoup dévalué le patois, voilà, on a parlé de patois avec Christian Paché dans une émission, justement, sur le Poitou. Où c'est un mot qui est quand même très dévalorisant pour les langues, on va dire, les dialectes. Et du coup, vous n'avez peut-être pas pris en compte le fait que vous étiez bilingue. On parlait plutôt de langues étrangères comme le latin, le grec que vous avez étudié, l'anglais. Et l'occitan, c'était pas encore la mode, j'allais dire.
Et puis ce n'était pas valorisant. Nous avions voulu, avec toute la famille de mon époux, faire une fête en occitan que nous avons faite, une fête votive dans les années 1974, qui a fort bien marché. Même la messe était en occitan. Enfin, tout le monde s'était mis à traduire même la messe. Et cette fête a été vraiment vivement vilipendée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu se tenir trois fois de suite. Je crois qu'elle s'est tenue une fois et demie de suite parce que nous avons été traités de fous, de gens qui n'y connaissaient rien. Et puis parfois on m'a demandé depuis, puisque j'anime des messes en occitan, je vous fais un petit clin d'œil si vous voulez une messe en occitan, je peux venir vous aider à la chanter, pas vous remplacer mais vous aider à la chanter. On nous a demandé si c'était bien normal, enfin si ce n'était pas un égarement que de faire la messe en occitan quand même. Donc ça s'est tassé jusque dans les années 90, curieusement dans le même village où une conseillère pédagogique payée par l'éducation nationale, et ça a une valeur parce que c'est une reconnaissance d'avoir une conseillère pédagogique payée par l'éducation nationale, qui a demandé dans quelles écoles elle pouvait passer, et bien sûr, je lui ai fait signe de venir dans notre école.
Puisque vous étiez professeur des écoles, hein, il faut que nos auditeurs...
Je crois que j'étais institutrice encore à l'époque, c'est-à-dire que je représentais une institution, et donc cette dame aussi représentait une institution, et elle est venue avec des livres écrits en occitan. Alors ça, j'en avais vu. C'était pas le problème. J'avais vu des livres écrits en occitan puisque ma mère, en 1925, faisait partie des premières élèves qui étudiaient l'occitan à distance avec ce qu'avait mis en place le chanoine Salvat et Cubaine. Donc, elle avait sa grand-mère occitane, elle avait ses cours, mais par correspondance, c'était loin. Et là, c'était dans ma classe. Dans ma classe, une dame qui s'est mise à apprendre l'heure aux enfants, à leur apprendre la conjugaison, et qui m'a dit, tu peux le faire. Ça, c'était évident que je pouvais le faire, et je l'ai fait. Ensuite, je suis allée à des conférences où on m'a appris le centre de Wernicke, celui qui charpente le langage, qui se trouve dans la nuque, le Broca, qui enregistre les langues et qui rend les gens bilingues. Et je n'avais pas besoin, je n'avais pas besoin d'IRM pour qu'on regarde dans mon cerveau si mon Broca contenait deux langues à la naissance. Évidemment, mon Broca contenait deux langues. Alors Zaïd, je suppose que votre Broca contient plusieurs langues à la naissance.
Oui, tout à fait.
Combien de langues avez-vous, Zaïd? C'est très intéressant.
Chez nous, ben, je ne remets pas, mais en grandeur, on a quatre langues. Voilà.
Quatre langues de base, voilà.
Donc, j'encourage Zaïd à apprendre le français, bien sûr, mais en français, il sera bilingue. Tandis que lui, dans son pays, déjà, il est quadrilingue. Quadrilingue.
C'est
on devient bilingue à l'école, on ne devient pas bilingue. Donc, bon, ça, c'est des précisions un petit peu, j'allais dire, chirurgiques ou biologiques. On n'a pas besoin de s'en encombrer. Mais une fois dans la vie, quand même, il faut en parler. Alors, il faut en parler parce que, du coup, cette conseillère pédagogique qui s'appelait Monique, je te salue si tu m'entends au passage. Je sais que peut-être tu m'écoutes. Monique m'a déclaré bilingue. Et moi, je n'ai pas eu de peine à me déclarer bilingue. Ensuite, mes enfants m'ont demandé « Comment se fait-il que maintenant tu apprennes l'occitan à tes élèves et à nous, tu ne nous l'as pas appris ?» Alors ça, je peux vous dire que j'ai cherché la réponse pendant de longs mois. Pourquoi je n'ai pas appris ? Et puis ça m'a culpabilisé. Et puis ça m'a fait honte. Et puis je me suis dit, mais voyons, que représente ma classe ? C'est plus que mes enfants ? C'est moins ? C'est à côté ? Qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, j'ai trouvé la réponse, que vous avez sûrement deviné déjà en m'écoutant, c'est que je ne savais pas que ça s'apprenait.
Et non, puisque vous l'avez entendu, c'était un apprentissage oral. Et puis encore une fois, moi je comprends, puisque c'était pas une langue qui était intéressante, on était encore sur la partie honteuse de l'occitan. Ça représentait, c'était pas noble. Voilà, c'était pas noble, alors que c'est quand même une langue qui a été parlée pendant plusieurs années. Alors, avant de continuer là-dessus, parce que je vois que vous avez amené quelques petits livres, Marie-Odile, dont vous pourrez parler à nos auditeurs, on va faire un morceau.
Alors, j'ai prévu, puisque ce sujet est venu sur la table, de savoir à quel moment il y a eu un avenir pour l'Occitan et à quel moment ce passé de l'Occitan avait été bouché et avait été vraiment grisé, bon, on va faire rapide, par la Révolution française et par l'école. Donc, ce besoin de retour, je choisis une chanson de Marie Rouanette.
Ah, super. Alors, allons-y.
Présence à Figeac, 97.7.
Loin del país, obvio d'un chat, le tour des buffets, la jornada, et à retourne. Loin del país, obvio d'un chat, pel negre tout soon, et au paupo, chen chou tournat, le joug chitan. Digiu, dit soloneu lo grano grelio, l'herbo so preste lo sabo durmi. Digiu, dit soloneu lo grano grelio, l'herbo so preste lo terro prembon. Lusche rufac, che per porti ombre truba lo plascio caudo, oisci de moru. Tondustal, che tornu quilia, pel miet de jome, je lo plaso, et sur de festo, pel bilan. Digiu, contro curello truzzonado, sciauto poi sciero cascado sturens. Digiu, che lo charmun de la mar grando, per l'amor montaglio un tenaschet. Dije yo que no sao mon de la mar grande, per l'amour montagne junte naquet. Donc, Marie-Rouanette a fait une chanson que j'ai raccourcie un petit peu. C'est « Loin du pays ». Ils étaient partis, ils ont dansé, ils sont revenus à tâtons. Ils avaient dansé à tâtons, ils sont revenus, ils avaient dansé dans le noir. Donc moi, je dis que sous la neige, la graine fait son travail. Lo grano grelio, c'est pas traduisible. Alors la graine fait son travail, le blé attend et la sève dort. Avec ceux qui étaient complètement fous, qui avaient ce désir de partir, ben ils sont revenus. Il y a des maisons qui se dressent dans le village. Et avec notre mal pour en finir, ils sont tous venus à l'aide. Et c'est la fête pour Milan. Moi, je dis que contre courant, la truite nage. Elle saute les rivières et les petites rigoles. Et moi, je dis que contre le courant, le saumon de la grande mer revient là où il était né.
C'est une très belle poésie. Du coup, justement, je voulais vous demander de nous parler un petit peu de Marie-Rouanette, puisqu'elle a écrit ses chansons dans les années 80, 90 ou avant ?
Bien avant, hein, je chantais Marie-Rouanette, enfin, j'essayais de chanter Marie-Rouanette à une époque où je n'y comprenais pas grand-chose quand même en l'écoutant la première fois, où je dépiautais tout ça puisque je n'avais pas appris l'occitan. Ce que je n'avais pas appris, en fait, pour comprendre Marie-Rouanette du premier coup, c'était que l'occitan, sa règle, la règle de l'occitan, c'est d'accueillir la diversité. Alors que la règle du français, c'est de normaliser et que tout le monde puisse se comprendre et faire pareil. Donc la règle de l'occitan, c'est de déboucher ses oreilles, de comprendre que c'est la même langue de la Provence jusqu'à l'Atlantique et jusque vers Limoges et en descendant jusqu'à la frontière, en comprenant le Val d'Aran en Espagne et le Piémont en Italie. Donc je vous fais remarquer
le
au passage...
aussi. Val d'Aoste. Le Val d'Aoste en Italie aussi est occitan.
Ah d'accord. Donc alors, je voulais faire une petite remarque, c'est que le pape François parle occitan puisque sa grand-mère italienne était du Piémont. Donc le pape parle un italien et il paraît que son italien est un petit peu influencé par la région. Et ben moi je suis ravie que ça soit influencé, ça a pas l'air de passer vraiment bien dans les médias, mais enfin c'est de l'occitan quoi. Donc le pape, je pense, comprend l'occitan. Donc je le dis sur Radio Présence, qui est une radio chrétienne, et je signale au passage que Monseigneur Camiade, l'évêque du Lot, comprend l'occitan. Donc ce qu'il ne faut pas faire avec Monseigneur Camiade, c'est ce que faisaient les adultes avec nous. Quand ils voulaient se dire quelque chose pour que les enfants ne comprennent pas, ils parlaient en occitan. Si vous voulez dire quelque chose que les autorités religieuses ne comprendraient pas, ne le dites pas en occitan. Dites plutôt des compliments, voilà.
Alors justement, c'est intéressant de voir que ces grands pontifes parlent occitan. C'est quand même une langue qui a vécu, alors arrêtez-moi Marie-Odile si je me trompe, mais plus de 1000 ans, je crois, et qui a donné lieu à beaucoup, beaucoup de poèmes. J'avais compris aussi qu'il y avait plus de mots que dans le français. Et que je demande un petit peu cette relation entre la langue et la musique traditionnelle, ces poèmes, enfin voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de tout ça?
Alors ça serait difficile de tout raconter. Il y a des éminences grises sur les langues romanes. Je vais citer Jacques Taupiak, Loutaupiak, qui a fait le dictionnaire, un dictionnaire occitan, qui est une éminence grise, qui est un prof émérite de l'Institut catholique de Toulouse, qui habite à Montauban. Que dire de Jacques Taupiak, qu'on peut le trouver au pèlerinage occitan quand il y a le pèlerinage occitan à Lourdes? Oui, puisqu'il y a un pèlerinage occitan à Lourdes qui est fort prisé sur Radio Présence. Et Jacques Taupiak, donc, parle je crois, 7 langues romanes, donc certaines qui sont incluses dans l'occitan. Il n'a pas réussi à tout rassembler, donc vous dites qu'il y a plus de mots. Ça semble forcé, puisque tout à l'heure nous avons dit que l'occitan cultive la différence, alors que le français cultive la norme. Voilà, ça ne veut pas dire que je dénigre le français, hein. J'aime beaucoup le français et je trouve qu'on a eu vraiment bien de la chance que tout le monde parle la même langue.
Et vous l'avez étudié, le français, vous avez étudié ses origines, vous le connaissez bien, le français.
Je connais un petit peu le français, par le latin, par le grec, mais ce que je pense, c'est que cette normalisation était nécessaire parce que d'écouter, enfin c'est ce que je disais à mes élèves, c'est le travail le plus difficile qu'on peut imaginer. Quand on dit à quelqu'un « Ah, mais t'as pas écouté !» Eh ben oui, c'est normal, on ne sait pas écouter. Et de l'apprendre, même en apprenant, moi je me dis, si on écoute 5%, c'est ce que je me dis là, vous êtes en train de m'écouter, mais si vous en retenez 5%, c'est magnifique déjà. Parce qu'écouter, c'est quand même hyper compliqué, donc écouter des diversités, ça peut devenir fatigant, ça peut ne pas permettre de comprendre à quel prix on vale la vache ou le veau sur un champ de foire, en fait c'est quand même pas pratique. Donc on a trouvé une façon pratique, que certains estiment réductrices, qui sont les normes du français. En fait, ce n'est pas si réducteur que ça. Ça permet autre chose. Et donc, il y a sur notre territoire la place pour le français, pour l'occitan. Il y a la place pour tout le monde, sans honte.
Très bien, oui, je pense que ça c'est très important et moi je suis ravie de voir qu'il y a maintenant quand même depuis plusieurs années des universités qui s'intéressent aux langues régionales comme l'occitan ou le breton, le basque et j'en oublie. Nous arrivons vers la fin de l'émission, n'est-ce pas Armand ?
Il reste encore 4 petites minutes.
Ah,
avec une petite bourrée.
C'est génial. On va faire une petite bourrée.
Une petite bourrée.
Qu'on la fait ensemble?
Allez, on la fait ensemble.
Allez, soyons
fous. On n'a pas répété, mais ça fait rien.
Ah, non,
vous
mais
nous
ça
direz
se pas.
Alors, vous téléphonerez, comme d'habitude. Armand va vous dire le numéro, si ça va ou si ça va pas, quoi.
C'est ça.
Surtout si ça va, dites-le.
Oui, dites-le. Ah, et
oui.
J'oublie, il y a maintenant quand même une page Facebook de Radio Présence sur laquelle vous pouvez mettre des commentaires et on les attend
parce que
plus vous mettez,
c'est Radio Présence dans le Lot.
Voilà, et plus vous mettez des commentaires et plus on peut améliorer nos émissions.
Et vous pouvez téléphoner, hein.
Oui, bien sûr.
Armand vous répondra.
C'est ça.
Oui, donc nous retournons au pays de l'enfance, celui où on parle occitan sans l'apprendre pour l'instant, puisqu'on en est au tout début. La mitate, puisque dans les bals traditionnels, enfin, à l'époque,
l'amitat entre dans une danse, c'était un break pour que l'on puisse faire passer le panier pour payer la danse. Donc maintenant, nous allons chercher les bons à danser, s'il vous plaît. Mais nous allons faire la deuxième. Cette suite de bourrées que nous quittons Mario Dille Lacaze pour le moment. Mario Dille, est-ce que vous reviendrez pour une autre émission pour continuer, parce qu'on n'a pas regardé vos trois livres encore?
Eh bien, finalement, oui. J'avais très peur de cette épreuve d'interrogation.
Je confirme.
Donc, finalement, ça se passe. Donc, surtout si les auditeurs mettent un petit mot sur le 06 14 14 28 14 et appellent Armand à la radio, parce que lui aussi, il faut qu'il ait envie de recommencer, parce que c'est quand même difficile de nous avoir avec tant de bourrées, tant de bruit. D'habitude, c'est plus calme, Armand.
Oui, mais ça dépend. Des fois, c'est pas si calme que ça.
Oui, puisqu'il a été avec moi pendant 4 semaines pour les des émissions de musique traditionnelle. Donc, merci beaucoup, Mario Dille. Et puis, à très bientôt.
À bientôt.